Bonjour à tous, Yacouba Ouidraougou avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire en cette matinée du mercredi 19 février, Kigali a annoncé la suspension des programmes d'aide au développement belge au Rwanda, accusant l'ex-puissance coloniale de soutenir Kinshasa dans le conflit en cours dans l'est de la RDC. Justement, les Nations Unies accusent le M23 d'avoir exécuté des enfants à Bukavu lors de la prise de cette ville par les rebelles.
Notre bureau a confirmé des cas d'exécution sommaire d'enfants par le M23 après son entrée dans la ville de Bukavu la semaine dernière. Nous savons également que des enfants étaient en possession d'armes, of weapons.
Un sujet à suivre dans la partie magazine de cette édition. Mais bien avant, près de 300 militants de Boko Haram tués au Tchad, c'est le chiffre de l'armée tchadienne qui dit déplorer 27 décès dans ses rangs lors d'une contre-offensive contre le groupe djihadiste. Les responsables russes et américains se sont entendus hier à Riyad pour établir un mécanisme de consultation pour régler la guerre en Ukraine. Kiev dénonce des pourparlers sur l'Ukraine sans l'Ukraine. En sport, suite et fin ce soir, des matchs retour des barrages d'accession en 8e de finale de la Ligue des champions européennes. Les détails dans une dizaine de minutes juste après l'économie. Mais d'abord, le journal. Le Rwanda a annoncé hier mardi la suspension des programmes d'aide au développement belge dans le pays. Kigali accuse Bruxelles d'avoir pris fait et cause pour Kinshasa dans le conflit en cours dans l'est de la RDC. Le point avec Eric Manirakiza.
Selon le ministère rwandais des Affaires étrangères dans un communiqué, la Belgique a mené une campagne agressive aux côtés de la RDC visant à saboter l'accès du Rwanda au financement du développement, y compris auprès des institutions multilatérales. Politiser le développement est fondamentalement inacceptable, a ajouté la diplomatie rwandaise en dénonçant des mesures qui ne peuvent être perçues que comme une ingérence extérieure injustifiée. Kigali a par conséquent suspendu le reste du programme bilatéral de 2024-2029. Le budget est de 120 millions d'euros, selon le site de l'agence belge de développement Enabel. En revanche, Londres a convoqué hier mardi le haut-commissaire rwandais, accusant Kigali de violer la souveraineté congolaise. Le Royaume-Uni a appelé le Rwanda à retirer immédiatement ses troupes de RDC, à cesser toutes les hostilités et à revenir au dialogue à travers des processus de paix sous supervision africaine. Fin janvier, Londres avait menacé de réexaminer son soutien financier au Rwanda. Les partenaires internationaux, selon Kigali, doivent respecter les principes de non-ingérence et de coopération mutuelle afin de trouver une issue pacifique à ce conflit.
Près de 300 militants de Boko Haram tués au Tchad, selon une annonce de l'armée tchadienne. L'armée déplore 27 décès dans ses rangs lors de la contre-offensive de 4 mois contre le groupe djihadiste. Alexandrine Holoyon.
L'opération Afkanit s'est soldée par la mort de 297 terroristes et l'armée tchadienne déplore 27 décès et 41 blessés, a détaillé le porte-parole de l'état-major général des armées, le général Shannan Issaka Cheikh, mardi lors d'un point de presse destiné à annoncer la fin des opérations. Aujourd'hui, Boko Haram n'a aucun sanctuaire sur le territoire tchadien, a-t-il ajouté, affirmant que les différentes opérations aériennes et terrestres ont traité simultanément et avec efficacité toutes les lignes de front et les bases arrières de ces terroristes. Fin octobre, une attaque meurtrière de Boko Haram contre une base militaire du bassin du lac Tchad avait fait une quarantaine de morts dans les rangs tchadiens, selon un décompte officiel en N'Djamena. En réponse à cette attaque, le président Mahamat Idriss Déby Itno avait lancé une contre-offensive qu'il dit avoir personnellement dirigée pendant 2 semaines depuis la province du Lac pour, selon ses termes, anéantir la capacité de nuisance de Boko Haram.
Le président gambien Adama Barrow a appelé mardi les jeunes à ne pas rêver d'Europe comme un pays de cocagne en tentant d'émigrer. Adama Barrow s'est prononcé dans son discours à l'occasion des 60 ans de l'indépendance de la Gambie. Le point avec Jean-Roger Billon.
Ne croyez pas les histoires que vous entendez à propos d'autres terres. Il n'y a pas de pays de cocagne. Nous vivons dans un monde de dur labeur et personne ne peut changer cette réalité, a martelé Adama Barrow mardi à Banjul, en présence de ses homologues sénégalais et bissau-guinéens, dont les pays sont également touchés par l'émigration clandestine. De nombreux jeunes gambiens cherchent à quitter leur pays en risquant leur vie à bord d'embarcations ou en passant dans le désert pour rejoindre clandestinement l'Europe. En 2024, près de 47 000 personnes ont tenté de rejoindre l'Europe en prenant la mer depuis les côtes ouest africaines jusqu'aux Canaries espagnoles, selon l'agence Frontex. Un nombre d'arrivées record en hausse de 18% par rapport à l'année précédente. Plus de 10 400 migrants sont morts ou ont disparu en mer en tentant de rejoindre l'Espagne en 2024, selon l'ONG Caminando Fronteras. Fin août, l'Espagne a signé avec Banjul des accords pour renforcer la coopération contre les passeurs de migrants illégaux vers l'Europe et en faveur d'une migration régulée lors d'une tournée du Premier ministre espagnol.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Donald Trump s'est dit hier confiant dans la possibilité d'un accord avec Moscou sur un possible règlement de la guerre en Ukraine. Il a assuré qu'il rencontrerait probablement Vladimir Poutine avant la fin du mois. Le président américain, interrogé par la presse dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride, s'est aussi déclaré totalement favorable à la présence en Ukraine de troupes européennes de maintien de la paix, un sujet qui divise les Européens. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé hier des pourparlers sur l'Ukraine et sans l'Ukraine. « Je suis très déçu de ces propos », a répondu Donald Trump. Et justement, des responsables russes et américains se sont entendus mardi à Riyad pour établir un mécanisme de consultation pour régler leurs contentieux. Les deux pays vont nommer des négociateurs pour le règlement de la guerre en Ukraine. Les précisions avec Mohamedou Oumfa.
À l'issue des premiers pourparlers entre Russes et Américains qui ont duré 4h30, le secrétaire d'État américain Marco Rubio s'est dit convaincu que la Russie voulait s'engager dans un processus sérieux pour mettre fin à la guerre. Il a souligné qu'il fallait toutefois qu'un accord sur l'Ukraine soit acceptable par tous. Marco Rubio et son homologue Sergei Lavrov ont décidé de désigner des équipes de haut niveau pour commencer à travailler sur une issue du conflit en Ukraine dès que possible, de manière durable, pérenne et acceptable pour l'ensemble des parties, a indiqué le département d'État dans un communiqué. Sergei Lavrov a estimé que les Américains avaient commencé à mieux comprendre la position de Moscou, répétant à cette occasion l'opposition catégorique de la Russie à tout contingent des pays de l'OTAN en Ukraine. Pour sa part, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui s'entretenait à Ankara avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, a dénoncé des pourparlers sur l'Ukraine sans l'Ukraine et a réclamé des pourparlers équitables qui incluent l'Union européenne, le Royaume-Uni et la Turquie. Washington et Moscou ont dit que Kiev participerait au pourparlers en temps voulu et le porte-parole du Kremlin a assuré mardi que Vladimir Poutine était si nécessaire, prêt à négocier avec Zelensky.
Le président Donald Trump a annoncé qu'il prévoyait d'appliquer des droits de douane de près de 25% sur les automobiles importées aux États-Unis et d'au moins du même niveau sur les semi-conducteurs et sur le secteur pharmaceutique. Pour l'automobile, Trump a assuré que ce sera d'environ 25%, ajoutant se donner jusqu'au 2 avril pour décider. Le président américain s'est aussi satisfait d'avoir vu l'Union européenne réduire ses droits de douane sur les voitures de 10% à 2,5%, ce qui est exactement le même niveau que les États-Unis. Le gouvernement fédéral donne aux écoles et universités américaines 2 semaines pour éliminer les initiatives en faveur de la diversité, sous peine de perdre des fonds fédéraux. Dans une note adressée vendredi aux établissements d'enseignement, le ministère de l'Éducation a lancé un ultimatum pour qu'il cesse d'utiliser les préférences raciales comme facteur d'admission, d'aide financière, d'embauche ou d'autres domaines. Les écoles ont 14 jours pour mettre fin à toute pratique qui traite les étudiants ou les travailleurs différemment en raison de leur race, sous peine de perdre leur éligibilité à l'aide fédérale. Une enquête menée par le Bureau de la sécurité des transports du Canada, aidée par les régulateurs américains de l'aviation et une équipe de Delta, a débuté hier à l'aéroport de Toronto. Des enquêtes, disons bien sûr, avec pour objectif comprendre pourquoi un avion de Delta Airlines a heurté lundi le tarmac de plein fouet à l'atterrissage avant de s'enflammer et de se retourner. Malgré la boule de feu et les épais panaches de fumée noire qui ont envahi l'avion une fois sur le sol, aucune des 80 personnes à bord n'a perdu la vie. 21 personnes ont été blessées lors de l'accident, mais seules 2 d'entre elles étaient encore hospitalisées mardi et leur vie n'est pas en danger, a précisé Deborah Flint, directrice générale de l'aéroport. Le parquet brésilien a inculpé mardi l'ancien président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, et 33 autres suspects pour un projet présumé de coup d'État visant à empêcher le retour au pouvoir de son successeur Lula après le scrutin de 2022. Cette inculpation est basée sur un rapport d'enquête de la police fédérale faisant état de l'implication présumée de l'ex-président dans l'ébauche d'un décret qui aurait justifié la déclaration de l'état de siège pour annuler le scrutin remporté contre lui par Lula fin octobre 2022. Jair Bolsonaro, 69 ans, a toujours clamé son innocence, se disant victime de persécutions politiques. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Les nouvelles économiques à présent. Et nous retrouvons Jean-Roger Billon pour la Minute Éco.
Au Soudan, l'ONU demande 6 milliards de dollars pour aider 26 millions de personnes en 2025. L'urgence est d'autant plus forte que des cas de famine ont été signalés dans au moins 5 régions du Soudan, notamment au sein des camps de déplacés du Darfour et dans l'ouest des monts Nouba. Le plan de réponse aux besoins humanitaires du Soudan vise à fournir une aide vitale à près de 21 millions de personnes vulnérables. La Thaïlande signera un accord le mois prochain pour vendre à l'Afrique du Sud 300 000 tonnes de riz d'une valeur de 156 millions de dollars, a déclaré le ministre du Commerce ce mardi. Pour la Thaïlande, l'Afrique représente un débouché stratégique grâce à sa consommation en pleine expansion. En 2023, les achats de riz thaïlandais pour l'Afrique ont atteint 2,48 millions de tonnes. La bourse de New York était globalement dans le rouge mardi face à la remontée des taux obligataires et des valeurs dites refuges, alors que les investisseurs accueillent avec prudence la tenue des premiers pourparlers entre Washington et Moscou depuis l'invasion de l'Ukraine fin février 2022. Du côté de la tech, une large partie du secteur des semi-conducteurs profitait de la présentation par la start-up xAI de son modèle Grok 3. En annonçant la sortie de Grok 3, Elon Musk s'est targué de présenter l'IA la plus intelligente sur Terre.
Sans transition, l'actualité sportive avec Eric Manirakiza. Bonjour Eric.
Bonjour Yacouba.
Barrage retour de la Ligue des champions européenne pour commencer avec les résultats des rencontres d'hier.
Le Bayern Munich a arraché sa qualification pour les huitièmes de finale aux dépens du Celtic Glasgow grâce à une égalisation en but partout d'Alfonso Davies en toute fin de rencontre après une victoire à l'aller de 2-1. Bruges a fait sensation, déjà vainqueur du match aller de 1 à domicile. Le club belge a surclassé l'Atalanta Bergame 3-1 mardi pour atteindre les huitièmes de finale. Benfica a éliminé Monaco en arrachant un nul de 3 buts partout à Lisbonne et jouera les huitièmes de finale, soit contre Liverpool, soit contre Barcelone. L'AS Milan, réduit à 10 peu après le retour des vestiaires, a mordu la poussière à domicile face à Feyenoord Rotterdam, qui s'est qualifié pour les huitièmes de finale en arrachant le nul en but partout à San Siro.
Dans les matchs de ce soir, le Real Madrid n'a pas 99% de chance de se qualifier contre City. Parole de Carlo Ancelotti, le coach madrilène.
L'entraîneur madrilène Carlo Ancelotti a dit mardi que son équipe n'avait pas 99% de chances de se qualifier pour les huitièmes de finale. Il répondait aux propos de son homologue Pep Guardiola, qui a estimé que Manchester City n'avait qu'un pour cent de chances de s'imposer ce mercredi en barrage retour de Ligue des Champions face au Real Madrid. Nous avons seulement un petit avantage dont on doit profiter en répétant notre performance de l'aller, victoire 3-2, a déclaré Ancelotti en conférence de presse.
Les recrues à la rescousse de Manchester City.
Pour inverser le Real ce mercredi à Madrid, Manchester City misera en partie sur ses chères recrues de l'hiver, à commencer par Nico Gonzalez, milieu défensif formé au Barça, attendu comme le Messi par Pep Guardiola. Et contre Newcastle, 4-0 samedi en championnat, l'équipe a retrouvé tout son éclat avec trois nouveaux visages alignés pour la première fois ensemble.
Le PSG, lui, est à un tout petit pas des huitièmes.
Dans une forme impressionnante, le PSG a remporté largement le barrage aller face à Brest 3-0, qui retrouve ce mercredi à 21h au Parc des Princes,
en quelques semaines, au cœur de l'hiver, enchaînant phase de possession et phase de transition rapide, le PSG s'est imposé comme un des principaux cadors européens comme Liverpool ou Barcelone.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Yacouba Ouidraougou, toujours avec vous pour vous présenter les dossiers du jour. Les Nations Unies ont accusé hier mardi le M23 d'avoir exécuté des enfants à Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les combattants de ce groupe armé, alliés à des troupes rwandaises, ont pris le contrôle de la ville dimanche dernier. Le point avec Jacques Aristide.
Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme affirme que la situation dans l'Est congolais se détériore fortement, entraînant de graves violations des droits humains et des abus, tels que des exécutions sommaires, y compris d'enfants, et des violences sexuelles.
L'avancée du M23 soutenue par le Rwanda dans le sud Kivu a plongé la région dans une crise sécuritaire et humanitaire complexe, provoquant des déplacements de population. Notre bureau a confirmé des cas d'exécution sommaire d'enfants par le M23 après son entrée dans la ville de Bukavu la semaine dernière. Nous savons également que des enfants étaient en possession d'armes. Nous demandons au Rwanda et au M23 de veiller à ce que les droits de l'homme et les droits humanitaires internationaux soient respectés. Nous recensons également des cas de mauvais traitement, de violences sexuelles et fondées sur le genre liées au conflit, de recrutement d'enfants et de recrutement forcé, d'intimidation et de menaces de mort.
Le Haut Commissariat n'a pas de chiffre global du nombre d'enfants exécutés, mais dispose d'un grand nombre de rapports qui doivent être vérifiés, a ajouté sa porte-parole Ravina Shamdassani lors d'un point de presse mardi à Genève, faisant état de 3 garçons tués lors d'une altercation avec des membres du M23. Le groupe rebelle n'avait pas encore réagi à ces accusations dans la journée. Pendant ce temps, les bateaux ont repris la navigation mardi matin sur le lac Kivu, nerf des échanges commerciaux entre Goma et Bukavu.
Ça faisait longtemps. Quand on a pris la ville de Goma, moi j'étais à Bukavu. Ils ont passé dans beaucoup de choses. Moi aussi, ça m'a rencontré ici à Bukavu. Donc je me sens vraiment très ravi de voir qu'on a ouvert les ports.
Je suis très heureuse d'aller à Goma car pendant tout ce temps, nous n'avions pas de travail. Il nous manquait quelque chose à faire, crise après crise. Alors qu'ils rouvrent la route, gloire à Dieu.
Le M23, fouillé par des militaires rwandais, n'était plus lundi qu'à une 50 kilomètres de la frontière avec le Burundi, qui a envoyé depuis octobre 2023 plus de 10 000 soldats pour aider l'armée congolaise. L'agence de l'ONU pour les réfugiés estime qu'entre 10 000 et 15 000 personnes sont entrées au Burundi ces derniers jours, fuyant l'escalade des tensions et violences en RDC. La plupart d'entre elles sont des Congolais, principalement originaires de la région de Bukavu, toujours selon le HCR, qui indique que le nombre de personnes ayant fui ailleurs qu'au Burundi demeure pour l'instant relativement faible.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.4 à Bukavu.
Depuis juillet 2024, date à laquelle une série de manifestations de masse a eu lieu au Kenya, 82 cas de disparition forcée présumée ont été enregistrés selon la Commission nationale kenyane des droits de l'homme. L'identité des auteurs de ces enlèvements n'a pas encore été déterminée. Mariama Diallo, chef du bureau de la VOA à Nairobi, a parlé à 2 frères qui disent avoir été enlevés pendant 32 jours. Récit Eric Manirakiza.
C'est ici dans le quartier de Kitengela Town, à environ 1 heure du centre de Nairobi, qu'Aslam Longton et son frère Jamil disent avoir été enlevés.
Dans le first corner, there was a totalist.
Au premier virage, une Toyota vide était garée et avait ouvert toutes les portières. Je n'avais donc pas pu passer. J'ai fait marche arrière et je suis arrivé à cet endroit. Lorsque je suis entré, une Subaru est venue me bloquer ici et une Toyota Axio m'a bloqué derrière.
There was a Subaru come and blocked me here. and Toto Axio blocked me at behind them. Eh?
Les frères affirment avoir été approchés par des hommes lourdement armés qu'ils ont pris pour des policiers qui leur ont ordonné d'éteindre le moteur de leur voiture.
Ils ont ouvert la voiture, ils m'ont enlevé du volant et m'ont amené très vite dans la Subaru.
Jamil Longton affirme qu'il n'était pas censé être amené ce jour-là, mais lorsqu'il a insisté auprès des policiers, leur suggérant même d'appeler le poste de police du quartier, ils ont refusé de se présenter.
Je leur ai demandé qui vous étiez et pourquoi vous ameniez mon frère. Je leur ai dit que j'allais appeler l'officier commandant le poste de police de Kitengela pour lui demander s'il était au courant de ce que vous faisiez. Lorsque j'ai tenté d'appeler l'OCS, ils ont confisqué mon téléphone. J'ai été giflé, mon téléphone a été éteint et j'ai été embarqué dans la Subaru.
Les frères disent avoir été menottés, avoir eu les yeux bandés, avoir été amenés dans un endroit et avoir été détenus pendant 32 jours. Amnesty International et la Commission nationale des droits de l'homme du Kenya confirme les récits des deux hommes et affirme qu'ils sont similaires au traitement réservé à d'autres personnes enlevées.
Premièrement, ils nous ont dit qu'on leur avait refusé de la nourriture. Ils ont été menottés pendant des jours. On les a déshabillés et on les a fait s'allonger sur des sols en béton pendant des jours.
Concrete flaws. Aslam affirme qu'il a été enlevé en raison de sa participation aux manifestations nationales de la Gen Z, dirigée par des jeunes l'année dernière contre un projet de loi qui aurait augmenté les impôts. Ces manifestations se sont transformées en un appel à la fin de la corruption et à la démission du président. Le projet de loi a finalement été retiré. Les groupes de défense des droits ont accusé la police kenyane d'avoir fait un usage excessif de la force contre les manifestants et dans certains cas d'avoir enlevé des détracteurs du gouvernement. La police nie ces allégations. Elle a aussi déclaré qu'elle disposait de preuves crédibles que des gangs criminels avaient infiltré les manifestations et prévoyaient d'en tirer profit. En décembre, à la suite de nouvelles manifestations à Nairobi pour demander à la police de retrouver les personnes disparues, le président William Ruto a condamné la recrudescence des disparitions.
Tout acte criminel doit faire l'objet d'une enquête, qu'elle soit le fait de citoyens, de criminels ou de la police. Elle doit faire l'objet d'une enquête et nous devons faire toute la lumière sur les activités criminelles au Kenya.
Ne demande de commentaires auprès du service national de police sont restées sans réponse.
Dans un contexte de raid des migrants illégaux à l'échelle nationale, une organisation communautaire à Chicago, dans l'Illinois, ici aux États-Unis donc, aide les sans-papiers qui craignent de quitter leur domicile et d'être arrêtés. Un reportage d'Enrique Garcia Fuentes, récit d'Ilidico.
Marie-Lou et Jesus Vargas achètent et livrent des provisions à des immigrés sans-papiers qui disent craindre d'être détenus par des agents de l'immigration. Ce jour-là, ils ont aidé une femme qui dit avoir été menacée sur son lieu de travail. Elle n'a pas souhaité montrer son visage ni donner son nom par crainte d'être expulsée. Pour protéger son anonymat, nous l'appellerons Maria. Écoutons-la.
Une femme est venue sur notre lieu de travail et a dit qu'elle allait faire appel à l'immigration contre nous tous. Cela fait maintenant 2 semaines que je n'ai pas quitté ma maison.
C'est pourquoi Maria s'est tournée vers Mijos. La famille Vargas a fondé cette organisation communautaire à but non lucratif pour venir en aide aux immigrants de Chicago. Mijos lui fournit du lait, des céréales, des haricots, des galettes de maïs et de la viande. Parfois, les personnes qu'ils aident peuvent les rembourser, mais le couple couvre la plupart des dépenses de sa propre poche. Marie-Lou Vargas est la cofondatrice de Mijos.
Nous apportons de l'espoir à ceux qui n'en ont pas. Nous nous efforçons d'aider ceux qui ont peur de faire leurs courses ou d'emmener leurs enfants à l'école en leur fournissant les services de base dont ils ont besoin pour survivre.
Le couple Vargas dit avoir aidé environ 25 familles depuis que le président Donald Trump est entré en fonction et a annoncé des expulsions à grande échelle. Ils disent faire ce qu'ils peuvent, mais reconnaissent que les besoins dépassent largement l'aide qu'ils sont en mesure de fournir. Jesús Vargas est le cofondateur de Mijos.
Certains bienfaiteurs nous envoient de petits dons, ce qui nous permet d'aller acheter des provisions pour ces familles. Nous avons nos propres emplois, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas aider notre communauté. Nous devons donner notre temps pour montrer notre solidarité avec ceux qui ont le plus besoin en ces temps difficiles.
Chicago est une ville dite « sanctuaire ». Les fonctionnaires ne posent pas de questions sur le statut d'immigration et ne divulguent pas ces informations à la plupart des autorités fédérales. C'est l'une des nombreuses villes américaines où l'administration Trump a mené des actions pour l'application des lois sur l'immigration. Écoutons Tom Homan, responsable de la politique frontalière.
Si vous êtes dans le pays illégalement, vous êtes sur la sellette parce qu'il n'est pas acceptable de violer les lois de ce pays. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous entrez illégalement dans ce pays, vous commettez un crime.
L'administration Trump affirme que plus de 11 000 immigrés sans papiers ont été arrêtés au cours des deux premières semaines de son mandat. Pour les migrants comme Maria, la situation est terrifiante, mais elle est reconnaissante de l'aide apportée par Mijos. À nouveau Maria, une migrante sans papier.
Je me sens bénie par Dieu pour ces bonnes personnes. Il n'y a pas assez de mots pour exprimer ma gratitude.
Malgré sa peur, Maria sait qu'un jour ou l'autre, elle devra sortir de sa maison.
Une épidémie de grippe aviaire a provoqué une flambée des prix des œufs ici aux États-Unis. En 2021, le prix d'une douzaine d'œufs était encore inférieur à 2 dollars. Quatre ans plus tard, le prix moyen avoisine les 5 dollars. Et si l'épidémie persiste, les consommateurs pourraient se retrouver à payer le double. Les détails avec Ginny Niwa.
L'épidémie de grippe aviaire qui a débuté en 2022 a fait monter en flèche les prix des œufs. Ce maraîcher de Palm Beach affirme qu'il est difficile de se procurer des œufs.
Ici, le prix a tellement augmenté que les gens doivent prendre une décision. Vais-je avoir des œufs? Vous voyez? Et ça peut les surprendre. Mais nous comprenons. Nous avons de la chance de pouvoir les acheter, car certains endroits n'en ont même pas. Mais vous les obtenez à prix d'or.
Ici, les consommateurs n'ont pas le choix. Ils paient le prix fort.
Je veux dire que je suis un grand consommateur d'œufs, donc cela me touche un peu plus. Ce n'est pas seulement le prix qui augmente, c'est aussi la rareté des œufs. C'est la première fois que je vois des œufs sous cette tente et sur ce marché, et cela fait 4 semaines que je viens ici. C'était donc bien de pouvoir acheter des œufs et tout le reste. Mais le prix, quand je suis ici, je veux dire, par rapport au magasin et à la qualité, ça vaut le coup.
Le prix moyen d'une douzaine d'œufs de catégorie A dans les villes américaines a atteint 4,95 dollars en janvier, éclipsant le précédent record de 4,82 dollars établi en janvier 2023. Bien entendu, il ne s'agit là que de la moyenne nationale.
Je suis allé hier au magasin et j'ai été littéralement choqué de voir que la douzaine d'œufs coûtait 9,26 dollars alors que chez Costco, la trentaine coûtait 24 ou 25 dollars. Je veux dire que c'est littéralement choquant.
Un plateau d'une douzaine d'œufs peut coûter 10 dollars ou plus dans certains endroits. Et les variétés spécialisées telles que les œufs biologiques et les œufs de poule élevés en cage sont encore plus chères.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
que s'achève cette édition du Monde aujourd'hui. Merci de rester fidèle au programme de VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Yacouba Ouidraougo, Michel Joseph à la réalisation. Ainsi va le Monde aujourd'hui. L'info continue sur voafrique.com ainsi que sur nos pages Facebook, YouTube, X et Instagram. Je vous souhaite une excellente journée en compagnie des programmes VOA Afrique. Thank you.